Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est « L'Église est-il un bâtiment ?» Dans notre dernière étude, nous avons examiné la signification du mot « Église » et les différents usages que la Bible fait de ce mot. Nous avons terminé l'étude en parlant de certaines significations qui ne sont jamais en vue quand la Bible emploie le mot « Église ». Revenons à un usage qui est très commun aujourd'hui, mais que l'on ne rencontre jamais dans la parole de Dieu. L'Église comme bâtiment ou édifice. Nous avons déjà vu que la Bible emploie le mot « Église » de trois manières. Pour se référer à tous ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, partout où ils se trouvent dans le monde. Pour se référer aux sauvés dans un lieu donné qui adore ensemble, qui travaille ensemble pour le Seigneur et qui forme une assemblée locale. Et pour se référer aux membres d'une assemblée locale quand ils sont réunis dans un endroit pour adorer Dieu et s'édifier les uns les autres. Il s'agit dans chaque cas d'un ensemble de personnes. Considérez les passages bibliques suivants. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Acte 8, verset 1. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Acte 18, verset 22. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20, verset 28. Or, j'étais inconnu du visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Galates 1, verset 22. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Matthieu 18, verset 17. Évidemment, on ne peut pas persécuter un bâtiment. Un édifice ne marche pas dans la crainte du Seigneur, et on ne le salue pas. Un bâtiment ne connaît personne de visage, et on ne lui dit rien. Il est parfaitement clair que dans tous ces passages, on parle d'un groupe de personnes. Quand, en lisant la Bible, vous voyez le mot « Église », sachez qu'il s'agit toujours d'un ensemble d'hommes et de femmes qui ont été sauvés par Jésus, et jamais d'une construction physique dans laquelle ces chrétiens se réunissent. Certains versets bibliques, par contre, comparent l'Église à un bâtiment physique, surtout à un temple. Mais dans chacun de ces passages, il est tout à fait clair que l'on parle d'un groupe de personnes, un groupe qui ressemble d'une certaine façon à un bâtiment. En 1 Pierre 2, versets 4 et 5, par exemple, les chrétiens sont comparés en même temps à des pierres qui composent une maison et aux sacrificateurs qui composent le sacerdoce qui sert Dieu dans sa maison. Ils se réfèrent premièrement à Jésus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Notez bien que la maison dont on parle est une maison spirituelle et non physique. L'apôtre Paul emploie, en Éphésiens 2, versets 20 à 22, la même image que nous venons de voir dans l'épître de Pierre. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu était censé, d'une certaine manière, habiter le temple qu'il avait ordonné de construire à Jérusalem sous l'ancienne alliance, au temps des rois David et Salomon. D'une manière plus profonde et plus réelle, Dieu habite en son peuple aujourd'hui, l'Église. Chaque chrétien est comme une pierre dans cet édifice spirituel. Chaque pierre a son importance, et c'est l'ensemble qui constitue le bâtiment. Cette image enseigne donc que le croyant ne doit pas mener sa vie chrétienne de façon isolée, sans contact avec ses frères et sœurs en Christ. Au contraire, il fait partie de quelque chose de plus grand. Il est uni à d'autres croyants. Paul avait employé cette même idée en 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Loin d'enseigner que l'Église est un bâtiment physique, ces passages insistent sur l'importance du peuple de Dieu, un peuple en qui Dieu habite, un peuple qui est saint, c'est-à-dire mis à part spécialement pour lui, un peuple sur lequel Dieu veille particulièrement, comme sa propre possession. Pourquoi prendre le temps d'insister tellement sur le fait que, bibliquement, l'Église n'est jamais un bâtiment physique, mais toujours un groupe de personnes? Premièrement, à cause de l'habitude d'employer le mot « Église » pour parler d'un édifice physique, il y a le danger de mal comprendre des passages bibliques. Mais deuxièmement, l'importance exagérée que le lieu de culte a revêtu dans la pensée de beaucoup d'hommes risque de fausser les opinions que l'on forme à l'égard d'une communauté chrétienne. Une église qui est parfaitement dans la volonté de Dieu et qui enseigne fidèlement sa parole peut être rejetée d'office par certaines personnes pour la simple raison qu'elle se réunit dans une maison privée, dans une salle de classe ou dans une autre sorte de local très modeste. C'est une grave erreur que de baser une décision dont les conséquences sont éternelles sur un facteur qui n'a pas d'importance spirituelle. Certaines personnes se laissent attirer par la grandeur, le confort ou la beauté d'un édifice impressionnant et ne tiennent même pas compte du fait que ce qui se passe dans cet édifice est contraire à la volonté de Dieu. C'est un piège qui peut coûter la vie éternelle. Est-ce que c'est une faute pour une assemblée de chrétiens de construire un local pour y faire ses cultes, pour s'y réunir afin d'étudier la Bible et jouir de la communion fraternelle? Non, ce n'est pas ce que nous disons. Un bâtiment est un outil, autorisé par le commandement de nous assembler. Hébreux 10, verset 25, etc. Si les chrétiens doivent se réunir, il faut bien qu'ils se réunissent quelque part. Et puisque la Bible ne précise pas dans quelle sorte de lieu on doit se réunir, nous avons la liberté de trouver une solution selon nos possibilités et notre bon jugement. Que ce soit de nous réunir dans la maison d'un membre de l'Assemblée, de louer une salle publique, de construire un bâtiment, etc. Certes, il y a des avantages à construire un lieu qui appartienne à l'Assemblée. Un lieu fixe permet aux uns et aux autres de retrouver et d'entrer en contact avec l'Assemblée plus facilement. Un bâtiment qui est à tout moment à la disposition de l'Assemblée facilite de nombreuses activités, surtout l'adoration, l'édification et la communion fraternelle. Et posséder son propre local et ne pas avoir à payer un loyer peut libérer des fonds pour le vrai travail de l'Église, c'est-à-dire les bonnes œuvres et la propagation de l'Évangile. mais il faut garder la bonne perspective sur les bâtiments. Un bâtiment, que ce soit une jolie chapelle, une cathédrale ou une simple construction de bois, ne sauve personne. Romains 1, verset 16 nous dit que c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut. En plus, le bâtiment n'est pas un moyen d'évangéliser. Le message de salut passe aux autres par des hommes et des femmes qui ont cru et qui ont été transformés par ce message. Certains appellent le bâtiment où l'on prie la maison de Dieu ou le temple. Mais Dieu n'y habite pas. Il habite en nous, les chrétiens. Paul dit en 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Un joli lieu de culte n'assure pas la survie de l'Église. Si les membres vivent dans l'immoralité, s'ils se donnent à de fausses doctrines ou s'ils manquent d'amour les uns pour les autres, l'Assemblée sera rejetée par Dieu ou abandonnée par les hommes ou tous les deux. Enfin, ces bâtiments auxquels on attache tant de valeur seront détruits un jour quand le Seigneur reviendra. L'apôtre Pierre dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, le ciel disparaîtra avec un bruit effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Puisque tout va être détruit de cette façon, vous comprenez bien quel doit être votre comportement. Vous devez avoir une conduite sainte et marquée par l'attachement à Dieu. » 2 Pierre 3, versets 10 et 11. Évidemment, les choses physiques que nous pouvons voir de nos yeux et toucher de nos mains ne sont pas l'essentiel pour Dieu. Jésus est mort pour l'Église. Ceux qu'il sauve sont membres de l'Église. Nous avons tous intérêt à connaître sa vraie nature, à pouvoir la reconnaître parmi tous les groupements religieux qui nous entourent, et à faire ce qu'il faut pour que le Seigneur nous y ajoute. Continuez donc de suivre cette étude très importante.
À qui il est doux, à qui il est beau de voir venir ensemble l'Église unie, un seul troupeau dans l'amour qui l'assemble. Toute sa force et la douceur qui sincère et profonde en chaque frère et chaque sœur est un exemple au monde. Dans l'allégresse ou dans le deuil, son Église est fidèle. Précieux qu'un corps.